France Culture. Les masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Carlo Ginzburg avec Aurélie Luneau.
À l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois, nous avons le plaisir de vivre cette rencontre avec vous, Carlo Ginzburg. Bienvenue à Blois et sur France Culture.
Merci, c'est un privilège.
Merci à vous et je suis vraiment ravie, comme tous ceux qui sont dans la salle, de vivre ce moment avec vous, en public, pour comprendre comment l'ensemble de vos travaux s'est construit, nourri, élaboré pour aboutir à cette œuvre magistrale qui est la vôtre et qui a révolutionné la discipline histoire. Vous êtes docteur en philosophie et historien, bien évidemment mondialement connu. Vous avez enseigné à l'université de Bologne, puis à l'université de Californie, à Los Angeles, l'UCLA, et à l'École normale supérieure de Pise. Et puis vous êtes cofondateur de la micro-histoire, née en Italie dans les années 70, nous allons en parler. La période moderne fut celle de vos premiers travaux, avec un intérêt pour les procès en sorcellerie et l'Inquisition dans l'Italie du XVIe siècle, un intérêt pour l'histoire des rites, des mythes, des imaginaires. Et votre œuvre est vraiment éclectique, à la croisée de la littérature, de la philosophie, de l'histoire de l'art, de l'histoire des religions, de l'histoire culturelle, intellectuelle, sociale, l'histoire des sciences aussi. On l'aura vite compris, Carlo Ginzburg, l'interdisciplinarité se vit en majuscule avec vous. Et parmi vos livres, on peut citer Les batailles nocturnes, Sorcellerie et rituels agraires en Frioul, 16e, 17e siècle, Le fromage et les vers, Le sabbat des sorcières, Le fil et les traces, et le dernier né, que l'on peut montrer aussi, La lettre tue, un livre tout juste paru chez Verdier. Et derrière ces titres énigmatiques, vous nous livrez les richesses, les trésors de la micro-histoire. Alors justement, plongeons tout de suite dans cette micro-histoire. Qu'est-ce que la micro-histoire et surtout, comment est-ce que vous en êtes arrivé à devenir en fait cet artisan avant qu'elle ne soit elle-même théorisée ?
Alors, micro-histoire, le mot a été, disons, parfois mal compris. C'est-à-dire que le préfixe « micro » ne se rattache pas à la dimension soit réelle, soit symbolique des objets de la recherche. Il s'agit, au contraire, du microscope, d'un regard analytique. Alors, sous les lentes du microscope, vous pouvez mettre, disons, un fragment de peau d'un éléphant ou un fragment de l'aile d'un insecte. Alors, ce regard analytique est au centre de ce projet, disons, qui est né, comme vous l'avez dit, à travers les discussions d'un groupe d'historiens italiens à la fin des années 70. Edoardo Grandi, Carlo Poni, Giovanni Levi, moi-même. Nous avions des trajectoires derrière nous très différentes. Et pour ce qui me concerne, je suis arrivé à la micro-histoire à travers l'histoire des cas. Or, en italien, le mot « caso » est un mot polyvalent, c'est-à-dire que ça se réfère soit au cas, soit au hasard. J'ai joué sur les deux tables, si vous voulez. Alors, histoire des cas. J'ai décidé d'essayer d'apprendre le métier d'historien lorsque j'étais élève de l'École normale de Pise. Et en 1959, j'avais 20 ans, tout d'un coup, j'ai pensé que, pas seulement j'aurais cherché d'apprendre le métier d'historien, mais aussi de travailler sur les procès de sorcellerie, et j'aurais essayé de saisir les attitudes, le voix, les croyances des victimes. Derrière tout ça, il y avait, des livres, des expériences aussi. L'expérience qui avait fait de moi, pendant la guerre, un enfant juif. Les rapports entre ça, j'étais bien conscient de ça, mais les rapports entre ça et le choix d'essayer de saisir les attitudes des victimes, c'était quelque chose qui, à ce moment-là, n'était pas évident. Mmh. Ce que, ensuite, j'ai trouvé incroyable. De toute façon, j'ai commencé à travailler sur les procès des sorcières en partant d'une hypothèse naïve, mais bien compréhensible dans un étudiant de gauche à la fin des années 50. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait la lecture de cahiers des prisons de Antonio Gramsci, ses réflexions sur les classes subalternes. Et de l'autre côté, il y avait Michelet, la sorcière, en tant qu'incarnation de la révolte. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur les procès des sorcières en tant que forme élémentaire de la lutte des classes.
Et ce que vous dites, c'est que finalement, pour vous, étudiant à l'époque, dans ces années 60, c'était naturel.
Oui, c'est-à-dire, pour un étudiant de gauche,
oui,
c'était pas surprenant. Ceci dit, lorsque j'ai commencé à travailler sur les procès des sorcières dans l'archive de Modène, où il y a un groupe consistant de procès d'inquisition, j'ai trouvé un procès et j'ai travaillé à analyser ce procès qui était l'objet de mon premier essai, Sorcellerie et piété populaire. Alors, c'était un procès où une paysanne qui vivait près de Modène avait été accusée d'être sorcière et d'avoir jeté un maléfice sur la patronne qui l'avait chassée du camp qu'elle travaillait. Et alors, l'inquisiteur, qui était un dominicain, Fra Bartolomeo de Pisa, soit Fra Bartolomeo Spina, c'était un démonologue, et il a écrit un traité en latin sur les sorcières. Mais dans ce traité, il n'a pas mentionné ces cas. Or, Bartolomeo Spina pose des questions à la femme, et elle répond, et à un certain moment, elle dit... J'ai jeté, disons, ce maléfice, mais c'est la Vierge qui m'a inspiré à faire ça. La Vierge. Alors là, il y a ce mot de cette réaction en face de quelque chose d'inattendu. Chez l'inquisiteur, on peut, disons, déceler ça. Et une réaction que j'ai partagée, évidemment. Et Chiara, nous sommes au début du XVIe siècle.
Et en 1519, précisément.
Oui. Alors, elle dit, oui, la Vierge était belle, rubiconda. Alors, il y a une description très dense de la Vierge. Et à ce moment-là, l'inquisiteur commence à poser des questions et à utiliser la torture pour arracher quelque chose qui était, à son avis, derrière cet aveu.
Donc, et, modifier l'aveu, aller chercher la sorcellerie, en fait.
Oui, oui. Et à ce moment-là, après, disons, les interrogations, la torture, etc., Chiara dit, oui, c'était le diable. Alors, à ce moment-là, le procès continue et l'inquisiteur pose aussi des questions concernant le sabbat des sorcières, la réunion des sabbats. Et là, Chiara dit non. Or, j'étais frappé par le fait que, disons, on pouvait, en lisant entre les lignes le procès contre Chiara, on pouvait saisir quelque chose qui s'est rattaché à, Antonio Gramsci aurait dit, l'histoire des classes subalternes. Mais en même temps, j'ai pensé, oui, l'hypothèse, aujourd'hui je dirais naïve, concernant la sorcellerie, était, disons, confirmée par ces procès. Et j'étais vraiment déçu, parce que je trouvais que mon hypothèse était évidemment assez faible, pas vraiment intéressante, si on pouvait trouver une confirmation si vite. Or, à ce moment-là, j'ai écrit cet article. Et cet article, à la fin, il y avait une remarque, je disais, ce cas, nonobstant ses spécificités, etc., pourrait avoir une valeur paradigmatique. Or, le mot paradigme est au centre du grand livre de Thomas Kuhn, l'historien des sciences, qui a écrit « La structure des révolutions scientifiques ». Et lorsque j'ai relu mon essai il y a quelques années, j'ai dit « Ah oui, évidemment, j'ai réagi au livre de Kuhn ». Non. Le livre de Kuhn a été publié une année après mon article. Et j'ai utilisé le mot « paradigmatique » dans une des significations utilisées par Kuhn, c'est-à-dire « exemplaire », c'est-à-dire... Mais ce qui m'a frappé, c'est que ce que j'ai regardé en tant qu'exemplaire, c'est un cas tout à fait exceptionnel, une anomalie. Alors, d'une façon rétrospective, encore une fois, l'idée que, disons, les anomalies ont une valeur exemplaire, une richesse exemplaire, c'est quelque chose qui m'a, disons, a marqué ma trajectoire jusqu'à aujourd'hui.
On peut dire que c'était audacieux quand même de votre part, Carlo Ginzburg, parce que vous étiez un jeune historien et vous aviez déjà cette audace d'affirmer, en tout cas de donner à comprendre que des cas exceptionnels, des anomalies, pouvaient aussi agir comme un révélateur et donc servir une histoire qui pouvait aussi amener à des généralisations. Alors je veux bien qu'on revienne à ce temps-là qui était le vôtre quand vous étiez étudiant. Oui. Est-ce que d'emblée, vous aviez perçu la portée du travail de l'historien, est-ce que vous en aviez pris la pleine mesure ou vous avez appris le travail de l'historien pour reprendre Marc Bloch et Lucien Febvre, c'est-à-dire être d'abord dans le faire et ensuite réfléchir à ce que l'on a fait ou ce que l'on a trouvé et ce qu'on a développé?
Oui. Alors, j'ai dit que j'avais décidé d'essayer d'apprendre le métier d'historien. J'avais lu le livre posthume, les réflexions posthumes sur l'histoire, le métier d'historien dans la traduction italienne, et j'avais été frappé par, disons, l'intelligence, la profondeur, etc., de ce livre, de ces réflexions, et en même temps par la vie héroïque de Bloch. Je dois dire que, oui, j'étais conscient que j'ai approché la figure de Marc Bloch à travers la figure de mon père, Léon Ginzburg, qui était militant antifasciste. Il a été, disons, mis en prison à Rome pendant l'occupation nazie. Il avait passé 2 années en prison, il était torturé. Il est mort en 1944, j'avais 5 ans. Or, lorsque j'étais étudiant à l'école normale, c'est-à-dire un peu avant par rapport à la recherche sur les procès des sorcières, j'ai choisi de faire un colloque. C'était, disons, un rite pour tous les étudiants dans l'école. Un colloque, et ça c'était justement en 1959, en histoire. Et alors, j'ai eu une conversation avec Arsenio Frugoni, qui était un médiéviste très original. Il m'a dit, alors, en tant que sujet de ton colloque, tu vas travailler sur les annales. J'ai dit, les annales? Alors, j'étais ignorant, complètement ignorant. J'ignorais l'existence des annales en tant que revue. Mais la collection des annales, la complète édition des annales, était dans une bibliothèque à Pise. J'ai commencé à, disons, une lecture diagonale, comme on dit en français. Et j'étais frappé par la richesse de cette revue, et en particulier par les premières années, c'est-à-dire la première dizaine, les annales avant la guerre, et surtout par l'œuvre de Marc Bloch. Il y avait derrière, disons, le métier d'historien, mais il y avait aussi quelque chose que j'ai trouvé dans cette bibliothèque, c'est-à-dire les rois thaumaturges. Alors, les rois thaumaturges, publié à Strasbourg en 1924, était à l'époque un livre, on peut dire, ignoré. Ensuite, il a été traduit, réimprimé avec des préfaces, je vais revenir sur ça, mais ignoré. Alors, les livres, c'est un livre que Bloch a écrit sur un épisode, un phénomène tout à fait surprenant et marginal. C'est-à-dire la croyance en France et en Angleterre, qui s'est rattaché au souverain de deux pays, la possibilité de le pouvoir de saigner les malades d'écrouelles. Les écrouelles, bon, c'était une maladie qui touchait les glandes du cou. Et
les rois de guérisseurs, on disait.
Oui, alors, en fait, le mot placé en exergue de ce livre, c'est un mot de Montesquieu. Ce roi est un grand magicien, c'est tiré de lettres persanes. Or, lorsque j'ai lu ces livres, et j'ai trouvé ça, ce livre tout à fait extraordinaire. Si, disons, un historien a pu écrire un livre comme ça, l'histoire, c'est une discipline pleine de surprises inattendues. Ceci dit, c'est vraiment le livre qui m'a converti à l'histoire, disons. Ceci dit, lorsque j'ai relu récemment, c'était pas la première fois, ni la deuxième, mais lorsque j'ai relu les rois thaumaturges, je trouvais une phrase qui m'a étonné. Et Bloch disait, le sujet de ce livre, on pourrait le considérer une anomalie ridicule si on l'approche d'une façon isolée. Mais si on la place dans un contexte plus large, alors les implications de ce phénomène deviennent claires. C'est-à-dire que, dans les sous-titres, il dit, c'est un livre, Les Rois Thaumaturges, qui jette une lumière sur l'attitude à l'égard de pouvoir des souverains en France et en Angleterre, on pourrait dire aujourd'hui à la lumière des écrits de Jacques Le Goff, dans les longs Moyen-Âge. Or, lorsque j'ai relu Les Rois Thaumaturges, j'ai pensé, mais oui, mais alors ça c'est vraiment un exemple de micro-histoire. C'est-à-dire un cas analysé en profondeur, et un cas qui, à travers une anomalie, jette une lumière inattendue sur un phénomène beaucoup plus large.
Revenons un peu justement sur votre histoire personnelle, familiale, parce qu'on sent que ce qui s'est passé aussi dans votre enfance nourrit et vous a probablement donné l'envie d'aller sur certains chemins, puisque c'est plus tard que vous commencez à réfléchir à ce que vous réalisez en tant qu'historien et la raison de vos choix de recherche. Et là, dans le recueil de 9 essais sur le point de vue en histoire intitulé « À distance », il y a cette petite notice autobiographique. Vous dites « Je suis un juif qui est né, qui a grandi dans un pays catholique. Je n'ai jamais eu d'éducation religieuse. Mon identité juive est en grande partie le résultat de la persécution. Oui. » Cette histoire familiale, de quelle façon est-ce que justement elle a eu cette influence sur votre parcours ? Donc, on comprend qu'il y a la persécution durant la Deuxième Guerre mondiale. Votre père est arrêté, il disparaît alors que vous n'avez que 5 ans. Vous avez des souvenirs d'ailleurs de ce moment-là ?
Oui, j'ai des souvenirs de mon père. Oui, des souvenirs très vifs.
Il y a aussi les textes que votre mère a laissés, puisque votre mère était une romancière et une femme d'édition. Et donc, elle a, dans ce livre, les mots de la tribu racontés de façon sobre, d'ailleurs, parce que quand on cherche des éléments sur vous, il n'y en a pas forcément, on parle des enfants. Mais voici ce qu'elle dit aussi, justement. « Léon fut arrêté dans une typographie clandestine. Nous habitions l'appartement situé près de la Piazza Bologna. J'étais seule à la maison avec mes enfants, donc vous aussi, Carlo Ginzburg. J'attendais et les heures passaient. Et peu à peu, en ne le voyant pas rentrer, je compris qu'on avait dû l'arrêter. La journée, puis la nuit s'écoulèrent. Le lendemain matin, Adriano vint m'annoncer l'arrestation de Léon et il me conseilla de quitter le logement sur le champ, de crainte que la police n'arrivât d'un moment à l'autre. Il m'aida à faire les valises, à habiller les enfants. Nous nous enfuîmes et il me conduisit chez des amis qui consentirent à m'héberger. » À partir de ce moment-là, Carlo Ginzburg, est-ce que vous sentez que vous êtes, Carlo Ginzburg, vous devenez autre, puisque votre grand-mère aussi vous demande de changer votre nom et de vous appeler Carlo Tanzi?
Oui, alors j'écris sur ça, c'est-à-dire que j'étais avec ma mère et ma grand-mère maternelle. Alors, ma grand-mère maternelle n'était pas juive. C'est-à-dire que du point de vue technique, on pourrait dire, je ne suis pas juif. Certainement, j'étais juif pour les nazis. De toute façon, on était, disons, en Toscane, tout près de, disons, du lieu où il y avait, disons, la confrontation militaire entre les Anglais et les Allemands. Et j'ai des mémoires très percutantes de ce moment-là. Et ma grand-mère maternelle m'a dit, si quelqu'un te pose la question « Comment t'appelles-tu ?», tu dois dire « Je m'appelle Carlo Tanzi ». Or, Tanzi, c'était son nom de jeunesse. Carlo, c'était le nom de son père, je ne savais rien. Et elle a écrit le nom Carlo Tanzi sur le frontispice d'un livre qu'on me lisait à l'époque. J'avais 5 ans. Et le livre s'appelait « L'enfant le plus heureux du monde ». Or, j'ai une mémoire très, très claire de la calligraphie de ma grand-mère sur la page de ce livre. Et d'une façon rétrospective, j'ai compris que, à ces moments-là, je suis devenu un enfant juif. L'idée de changer mon nom était quelque chose qui m'avait frappé pour toujours.
Et vous êtes issu d'une famille d'intellectuels. Votre père était professeur de littérature russe, c'est cela, hein, l'université de Turin. Il a traduit Gogol, Tolstoï. Donc après, vous nous avez expliqué qu'il était ce militant aussi antifasciste, hein, qui refuse dès les années 30 de signer le serment de fidélité au régime fasciste, etc. Et dans votre famille, on vous lit des histoires, vous êtes biberonné aux livres et aux histoires racontées par votre mère, par votre grand-mère ou par des domestiques d'ailleurs, avec des histoires des contes et légendes, des histoires de sabbat, d'anthropophagie, de métamorphose. Tout cela, ça a pu jouer aussi sur ce choix finalement qui a été le vôtre de partir sur ces terrains des sorciers, des sorcières.
Oui, encore une fois, d'une façon rétrospective, je dirais oui. D'une façon inconsciente, tout ça a joué un rôle. J'étais, disons, mon père avait, après le début de la guerre, c'est-à-dire lorsque l'Italie fasciste était entrée dans la guerre à côté de l'Allemagne nazie, on a envoyé mon père, qui avait perdu sa citoyenneté italienne, il était devenu apolide, et juif apolide.
Dénaturalisé en 1938.
Oui, exactement. On a envoyé mon père dans un petit village des Abruzzi. Et ma mère l'a rejoint là-bas avec deux enfants. Ma sœur est née là-bas. Et je suis grandi, dans ce village. En fait, le dialecte de ce village, c'est le seul dialecte que j'ai parlé dans ma vie. J'ai tout oublié, mais je pense que j'étais imprégné par la culture paysanne à travers une jeune femme qui aidait ma mère. Et je l'ai retrouvée, ça a été une rencontre très émouvante il y a des décennies. Et dans un texte magnifique, je dois dire, de ma mère qui s'appelle « Inverno in Abruzzi »,« Hiver dans les Abruzzi ». Elle parle de cette culture, disons, paysanne, des chansons que cette jeune femme qui l'aidait et qui était avec nous, mon frère et moi, des chansons qui racontaient des histoires d'anthropologie, comme d'anthropophagie, comme vous disiez, etc. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que je me rappelle qu'à l'époque, on m'a lu, on me lisait un livre de Capuana, Luigi Capuana, un écrivain italien de la fin du 19e siècle, et avec des histoires très souvent macabres, etc. Il avait une histoire où une jeune fille entre dans une maison vide et tout d'un coup, elle voit un être minuscule qui dit « Je m'appelle Gomitetto ». Et il avait un turban avec une plume énorme. Alors, la jeune fille regarde Gomitetto et il y avait dans ce livre des illustrations magnifiques. Et alors il y avait Gomitetto, on tourne la page et Gomitetto est devenu un loup-garou qui attaque la jeune fille. Or, ce qui est paradoxal, c'est le fait que, disons, après des décennies, j'ai travaillé sur les loups-garous aussi. En fait, il y a un livre qui va être, traduit et publié. Il est sorti d'abord en anglais, ensuite en italien, que j'ai écrit avec mon ami historien de religion Bruce Lincoln sur, un loup-garou, entre guillemets, sur lequel j'avais écrit des pages dans mon livre sur les batailles nocturnes. Cette continuité entre, mes lectures d'enfant et, mes travaux en tant que jeune historien, etc., c'est quelque chose que je trouve tout à fait surprenant. Mais évidemment, il y a des courants souterrains.
L'inconscient qui se niche dans la tête des historiens et d'autres d'ailleurs, mais et qui occupe cette place dans les choix. Alors on apprend aussi en lisant sur vous que vous aviez envie de devenir peintre. Alors peut-être que ce n'était pas une bonne idée, je sais pas, mais en tout cas vous aimiez la peinture. Vous avez hésité aussi entre l'histoire de l'art, la littérature, la critique littéraire, la philosophie, la linguistique. Vous vous cherchez un peu et puis finalement c'est l'histoire, et on aura compris que dès que vous commencez, vous dénichez ce qu'on peut appeler des pépites, en tout cas vous appelez cela des anomalies, des cas exceptionnels, mais en même temps, quand vous jouez l'art de la roulette vénitienne, vous allez nous expliquer ça, dans des fonds d'archives du Saint-Office à Venise, où vous n'aviez pas du tout l'autorisation de consulter toutes les cotes, il vous fallait choisir, à ce moment-là, vous allez quand même mesurer que vous êtes face à des histoires qui sont des trésors d'historiens.
Oui. Alors, d'abord, vous avez touché, un élément qui est certainement important, c'est-à-dire le fait que j'ai travaillé dans plusieurs directions, etc. Je suis historien. Mais comme j'ai dit il y a des années, je pense que l'histoire, ce n'est pas une forteresse, c'est un aéroport. Alors, on peut partir de cet aéroport pour aller dans des directions tout à fait inattendues. Alors, l'idée de chercher l'inattendu, et à mon avis, la recherche doit être recherche de l'inattendu, parce que, comme j'ai dit aussi, trouver ce qu'on cherche, point, ce n'est pas assez. Là, on touche, quelque chose qui m'a obsédé, c'est-à-dire... Est-ce qu'on peut produire le hasard si on pense que les hasards, c'est quelque chose qui nous met
dans une situation
où il y a quelque chose de tout à fait inattendu. Alors, la production du hasard. J'avais commencé, comme vous l'avez dit, lorsque j'étais à Venise et lorsque, après le rencontre avec le procès de Chiara Signorini, mon hypothèse s'était écroulée et j'avais pas d'hypothèse, mais seulement,
une intuition.
Non, c'est-à-dire un désir de travailler sur les procès des sorcières. Alors j'ai commencé un voyage à travers l'Italie pour, analyser, pour trouver de fragments de procès d'inquisition, etc. Et j'ai commencé avec Venise. Les archives d'État de Venise, là il y a, un fonds d'archives magnifique. Et il y a aussi un index, un inventaire, manuscrit, rédigé à la fin du XIXe siècle, où il y a, les noms, la date de chaque procès et un résumé d'une ligne, pas un résumé en fait, une définition. Hérésie, blasphémie, magie. Bon, j'ai commencé à regarder ça, et alors j'ai commencé avec la roulette vénitienne, parce que on pouvait, consulter trois boîtes avec des dizaines parfois de procès des sorcières, et alors j'étais à Venise et j'entrais dans l'archive, et je disais 7, 49, 83. Et à un certain moment, après, disons, ce jeu, j'ai rencontré un document qui m'a laissé sans mots. C'est-à-dire, un procès, mais c'était vraiment quelques feuilles de papier, où un inquisiteur, à la fin du XVIe siècle, commençait en posant des questions à un jeune bouvier, Menichino dalla Tisana. La Tisana, c'est un bourg du Frioul, mais à l'époque, je n'avais pas compris, je ne pouvais pas imaginer que cet élément frioulin, c'était très important. Et alors, l'inquisiteur dit, mais alors vous, Menichino, ou disons, tu, est-ce que tu es benandante? On dit que tu es benandante. Qu'est-ce que ça veut dire, benandante? C'est-à-dire, quelqu'un qui va pour le bien. Alors, Menichino a hésité, etc. Et ensuite, il dit, oui, nous, les benandanti, nous sommes nés coiffés et nous luttons en esprit dans la vallée de Josaphat, trois fois par an, contre les sorciers et les sorcières. Nous, les benandanti, nous avons en tant qu'arme des branches de fenouil. Les sorciers et les sorcières ont des bâtons de sorgho. Et si les benandanti gagnent la bataille, alors les récoltes sont riches, sont bonnes. Autrement, c'est la disette. Alors, j'ai lu ça, j'ai fermé ce document, je suis sorti de l'archive. Or, l'archive de Venise est placée dans un endroit incroyable, c'est-à-dire tout près de l'église des Frari, où il y a des tableaux incroyables de Titien, de Bellini. Bon, j'ai commencé à, comme j'ai dit, j'ai rappelé plusieurs fois, j'ai commencé à marcher un va-et-vient vers l'église des Frari, etc. Et j'ai fumé et j'ai rappelé ce détail parce que il me donne le sens de la distance. À l'époque, j'étais fumeur. Ensuite, je suis devenu membre de la tribu des non-fumeurs. Bon.
Or, mais ce besoin, c'est parce que vous étiez conscient d'avoir trouvé quelque chose de tel qu'il fallait que vous sortiez pour remettre vos idées en place. Un trésor d'historien, c'est trop lourd à porter ou
Oui, alors, c'est-à-dire que, oui, j'aurais dû dire ça, c'est-à-dire que j'étais sans mots et j'avais l'impression que j'avais découvert quelque chose de très important. En fait, j'ai essayé de réfléchir sur ma réaction à l'égard de ce document, plusieurs années après la traduction en japonais de mon livre sur le sabbat. Et alors là, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière ma réaction. Parce que je me suis dit, peut-être elle n'était pas évidente, peut-être d'autres historiens auraient ignoré ce détail comme une anomalie ridicule. Et bon, de toute façon, j'ai quitté Venise, je suis allé, et c'était ce que j'avais prévu après Venise, je suis allé à Udine. Et j'ai essayé de consulter les fonds d'archives de procès d'inquisition qui se trouvent dans le palais de l'archevêque de Udine. Un endroit incroyable avec de fresques de Tiepolo magnifiques. L'archive était à l'époque, c'était 1962, et était inaccessible aux historiens, aux chercheurs. Alors je suis allé à la bibliothèque de Udine, et là, par hasard, j'ai trouvé un volume manuscrit qui avait été volé de l'archive qui était dans les palais de l'archevêque, et c'était une liste manuscrite rédigée par un inquisiteur au début du XVIIIe siècle. Il y avait une liste manuscrite avec un résumé en latin du premier millier de procès célébrés par l'inquisition frioulin. Et bon, alors j'ai trouvé qu'il y avait, disons, des dizaines et dizaines de procès contre les benandanti. à l'époque inaccessible pour moi. J'avais l'impression que j'avais les menus d'un banquet inaccessible. Et parmi ces documents, ces résumés, j'ai trouvé aussi un résumé des trois lignes où on parlait de deux procès contre un paysan qui croyait et disait que le monde était né de la matière putréfiée, ex putrefazione materie. Et j'ai marqué ça, j'étais vraiment très surpris. Là, encore une fois, c'était quelque chose de... une anomalie. C'était le cas de Menocchio. Seulement 7 ans après, j'ai commencé à travailler sur ce cas. Mais d'abord, alors que j'ai travaillé sur les Benandanti, j'ai écrit ce livre qu'on a traduit en français, mais là, c'était ma suggestion, Les batailles nocturnes.
Alors on comprend, parce que je vois que l'heure tourne, Carlo Ginzburg, et malheureusement on ne pourra pas rentrer dans tout le détail effectivement de vos travaux exceptionnels, mais on comprend à travers votre parcours que cette micro-histoire, donc, c'est donc une révolution historiographique, hein, née au tournant des années 70-80 avec vous et d'autres historiens, ça ouvre un nouveau champ d'histoire, et cela veut dire qu'il faut être irréprochable sur la méthode, sur les analyses, et on sent que vous avez aussi cette méthode très personnelle, très intuitive. Alors, on a parlé du hasard. Moi, j'ai mentionné l'intuition. Vous disiez oui, peut-être pas complètement. En même temps, c'est vraiment cette nécessité toujours de poser des questions, d'être dans la position de l'ignorant, de questionner aussi la méthode, d'émettre des hypothèses, de les prouver, de les éprouver, de mener de rigoureuses vérifications. C'est aussi une méthode que vous avez dû inventer, peut-être par rapport à vos objets d'études, où vous empruntez de chemins de traverse en permanence, vous faites des tours, des détours, vous digressez, vous bifurquez, vous empruntez des voies tortueuses. On a l'impression que vous avez un rythme de sportif, hein, de l'historien que vous êtes.
Bon, d'abord, la méthode. Alors, j'ai trouvé cette phrase magnifique de Marcel Granet, le grand sinologue, et une phrase transmise par Georges Dumézil. Et Granet disait que la méthode, c'est la voie après qu'on l'a parcouru. C'était un jeu de mots sur l'étymologie, peut-être imaginaire, du mot méthode, tiré du grec métaodos, la voie après. Alors, après, pas avant. C'est-à-dire que c'est seulement à travers, disons, l'immersion dans les cas, l'analyse d'un cas, qu'on peut, disons, élaborer une méthode. Et en fait, j'ai travaillé sur ce cas et, comme je disais, je suis arrivé à la micro-histoire avec un bagage, y compris un livre comme « Les fromages et les verres », qui ensuite a été regardé comme un exemple typique de la micro-histoire. Mais dans ce livre, le mot « micro-histoire » n'est jamais mentionné. C'est-à-dire que le mot est arrivé ensuite, après. Et j'ai écrit quelque chose là-dessus. Il y a un essai qui s'appelle « Micro-histoire, deux ou trois choses que je sais d'elle ». Un hommage à Jean-Luc Godard. Et j'ai essayé de montrer le racine, pour ce qui me concernait, de mon approche à la micro-histoire. Mais il n'y avait plus que ça. Alors, dans cet essai, j'ai insisté sur le rôle joué pour moi dans la lecture de « Guerre et paix » de Tolstoï. Mon père a révisé une traduction qui existait de « Guerre et paix » lorsqu'il était exilé dans ce village des Abruzzi. Et j'ai des mémoires très, très, très précises de son travail à l'époque, autour d'une table, etc. Et lorsque j'ai lu pour la première fois « Guerre et paix », j'étais enfant, j'ai presque rien compris, et pourtant je l'ai relu plusieurs fois, et il y avait quelque chose dans l'édition que je lisais qui m'a touché profondément, c'est-à-dire le fait qu'il y avait une préface signée avec un astérisque. Mon père n'avait pas pu signer sa préfaction parce qu'il était juif et le livre est sorti en 1942. Et oui. Et alors, je dois dire que Pour moi, les racines de ma trajectoire vers la microhistoire sont multiples, diverses et variées. Et, disons, j'ai souligné l'importance de cas. J'ai dit quelque chose sur la production du hasard. À ce moment-là, après des décennies, j'ai dû travailler sur la casuistique. Alors, la résistance que j'avais eue à l'égard de la casuistique était liée à mon éducation. C'est-à-dire une éducation qui n'était pas religieuse, mais je dirais, il y avait, disons, on pourrait dire, une version sécularisée de l'attitude de Pascal à l'égard de la casuistique. La casuistique était quelque chose qu'on devait rejeter. Et en fait, je peux rappeler que mon père a été regardé dans une introduction à un recueil posthume de ses écrits, dans la préface écrite par son ami Norberto Bobbio, un philosophe très connu, etc. Il a dit, il regardait mon père comme l'incarnation de l'impératif catégorique de Kant. C'est-à-dire, justement, l'opposé de la casuistique. Et pourtant, oui, le cas, alors, m'a amené vers la casuistique. Oui, je sais, oui.
On a envie d'écouter Carlo Ginzburg des heures et des heures, hein, ça j'en conviens, et je suis d'accord avec le public ici présent à Blois. Carlo Ginzburg, se mettre à distance aussi, c'est une question, parce que on se rend compte que ces personnages que l'on exhume des archives, de l'oubli aussi quelque part, on s'y attache. Alors comment est-ce que vous avez fait œuvre d'historien sans être sous l'influence aussi de vos objets de recherche ? J'ai le sentiment que vous avez un lien presque émotionnel avec les personnages, les victimes, et puis un lien plus intellectuel avec les inquisiteurs.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé, j'étais bien conscient de la contiguïté émotionnelle que j'avais avec les victimes. C'est seulement après des décennies que j'ai compris quelque chose de troublant, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une contiguïté intellectuelle entre moi-même et les inquisiteurs. Dans quel sens ? Dans le sens que les inquisiteurs posaient des questions qui n'étaient pas souvent très différentes par rapport aux miennes. Et de l'autre côté, alors à l'époque j'ai écrit un article qui s'appelait « L'inquisiteur en tant qu'anthropologue ». En tant qu'anthropologue, c'est-à-dire en tant qu'historien, si vous voulez, et l'historien en tant qu'inquisiteur, pas vraiment, dans le sens que, évidemment, l'historien ne peut pas, disons, ne doit pas émettre des jugements, il n'est pas, disons, envoyer quelqu'un en prison ou le condamner à mort, etc. Et pourtant, il y a cette contiguïté intellectuelle. Là, il y a une petite anecdote, je peux dire.
Allez, parce que je suis l'inquisitrice, moi, du temps. Hein. Mais allez-y.
Alors, j'avais écrit cet article, et qui a été traduit en plusieurs langues. J'étais à Moscou, pour donner des conférences. À un certain moment, j'ai reçu un coup de fil, et quelqu'un m'a dit, nous sommes l'association Mémorial, et on voudrait discuter avec vous. Et j'ai dit, discuter avec moi ? Mais pourquoi ? J'étais flatté, mais surpris. Ah, parce que nous avons lu votre article, l'inquisiteur en tant qu'anthropologue. Est-ce que vous acceptez cette invitation ? J'ai dit, oui, bien sûr. Or, ce dialogue a été un dialogue qui m'a ému profondément. Et l'idée de ceux qui avaient lancé la proposition, c'était que ma lecture oblique de procès d'inquisition pourrait être utilisée pour analyser le procès de l'ère stalinienne. Or, là, il y a quelque chose qui va même au-delà de cette analogie possible. Analogie pour ce qui concerne pas les phénomènes en tant que tels, même si je me rappelle que un antifasciste qui avait lutté, qui connaissait mon père, etc., Valiani, Leo Valiani, lorsque j'ai parlé de mon travail sur les sorcières, il a dit « Oui, mais Zinoviev a écrit un pamphlet contre les premiers procès staliniens et il a appelé ça des procès de sorcières. » Or, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ça, c'est-à-dire que cette lecture oblique des procès d'inquisition peut être utilisée pour analyser la masse incroyable des documents produits, pas seulement de procès, produits par les colonisateurs européens, pour essayer de saisir, à travers, en lisant entre les lignes, pour saisir les attitudes de colonisés. Et alors je pense que là, c'est quelque chose qui explique aussi la fortune inattendue, la réception inattendue de la micro-histoire. C'est-à-dire, il y a là une composante, un élément géopolitique. Et, ouais.
Allez, quelques questions et des réponses légèrement plus courtes, on va dire, Carlo Ginzburg. Vous avez eu des détracteurs dans cette micro-histoire innovante. Rétrospectivement, est-ce que vous vous dites que finalement les critiques, les débats sur vos thèses vous ont plutôt amené à aller encore plus loin, à revoir les travaux, à enrichir et que ce fut positif ?
Oui, c'est-à-dire que je pense que la discussion c'est quelque chose qui nourrit la recherche et l'idée de disons n'avoir pas de critiques c'est quelque chose qui est très décevant.
Non, vous n'avez pas de mauvais souvenirs alors. Non.
Comment ?
Vous n'avez pas de mauvais souvenirs alors.
Ah non, tout à fait. je dois dire que très souvent, j'oublie. Mais oui, mais mauvais souvenir, non, non.
Qu'est-ce qui sonne la fin des recherches quand on a ce temps long aussi ? Est-ce que vous avez bénéficié aussi du luxe du temps long, pouvoir faire vos recherches, partir au bout du monde et pour continuer à vérifier vos hypothèses ? Le plus difficile, c'est de s'arrêter ?
Ha. Ars longa, vita brevis. Oui, c'est un mot qui concerne nous tous, dans le sens que ars, c'est pas seulement l'art, c'est chaque activité, etc. Et évidemment, il y a ce décalage entre ce que nous faisons et les limites de notre vie biologique.
La liberté, c'est un autre mot qui est un maître mot pour vous.
Oui, même si, il y a un essai qui est inclus dans ce livre, La lettre tue, qui s'appelle « La liberté est fragile ». En fait, le titre de cet essai est devenu le titre d'un recueil d'essais que j'ai écrit, qui vient de sortir au Japon. Et la fragilité de la liberté, c'est quelque chose qui me touche, surtout dans ces moments où on voit que, disons, il y a, disons, ce déferlement de régime de droite en Italie, partout, presque. Et il y a ce présent horrible, les guerres. Et un futur imprévisible mais menaçant. Alors, oui, la liberté. De l'autre côté, il y a le fait que analyser les individus, leurs attitudes, leurs comportements, etc., est quelque chose qui, et je crois que là, je cite Sigmund Freud, a un but. C'est-à-dire réduire le rôle du libre arbitre. Là, c'est quelque chose que je regarde en tant qu'un défi. Et je suis fasciné par ça. C'est-à-dire, c'est pas, disons, quelque chose qui c'est pas gay. Mais de toute façon, c'est une réalité. Lorsque on parlait de disons ces courants souterrains dans un cas qui est le mien, mais j'analyse ce cas parce qu'il y a cette proximité avec ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais là il y a deux décennies. Et l'idée que il y avait des contraintes qui ont agi et qui agissent jusqu'à maintenant sans que je suis responsable, disons conscient et peut-être aussi responsable de cette continuité, alors là, il y a quelque chose qui me fascine en tant que sujet de recherche.
Être libre, donc ce maître mot. Vous restez un historien engagé dans la cité. Je pense au temps de l'engagement par amitié que vous avez eu pour votre ami Adriano Sofri, ancien militant d'extrême gauche, condamné à 22 ans de prison pour le meurtre du commissaire de police Luigi Calabresi, assassiné en 1972. Donc c'est une époque où vous avez plongé dans les archives, fait un travail précis et donc qui a donné l'objet à un livre, Le juge et l'historien, considération en marge du procès Sofri, avec cette question, témoignage, preuve, entre probabilité et certitude, où se trouve la vérité. Rétrospectivement, vous referiez la même chose ?
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que, alors, j'ai écrit ce livre pour mon ami, et malheureusement, disons, à l'époque, il n'a pas eu d'effet. C'est-à-dire que, oui, il avait été condamné, ensuite il a eu une absolution, ensuite il a été une nouvelle condamnation, etc. Il a passé 9 ans en prison, il est presque mort lorsqu'il était en prison. Le livre a eu, disons, une réception inattendue, c'est-à-dire qu'il a été traduit, je crois, en 10 langues. Il y a eu des éditions pirates. Il y a eu récemment quelque chose que je trouvais surprenant, c'est-à-dire une traduction russe. Et sur un cas, disons, que j'ai analysé, disons, en profondeur, mais un cas, disons, isolé. Mais isolé, non. Parce que, en fait, j'ai abordé ce cas en analysant 3000 pages, disons,
du procès
à la machine, etc. Oui. Mais à travers, disons, en soulevant un problème plus général, c'est-à-dire les rapports entre juges et historiens. Et alors, c'est peut-être ça qui a, disons, permis cette traduction, etc. En fait, pour la traduction russe, j'ai écrit une préface adressée à un public russe aujourd'hui, parce que évidemment la situation a changé, pas seulement en Italie mais en Russie aussi.
Alors, est-ce que pour l'historien Carlo Ginzburg, être à la retraite, c'est une réalité, une fatalité ou une erreur de l'histoire?
Non, fatalité, non, c'est normal. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une anomalie. De toute façon, oui, j'ai l'impression que...
Si c'était une anomalie, vous seriez en train de mener l'enquête sur votre propre retraite.
Non, mais alors, je pense que, il s'agit aussi d'un privilège, être ici, par exemple, et peut-être écouter des questions.
Dans quelques minutes, effectivement, les deux dernières questions... Les archives constituées par l'historien sont des enfants et un patrimoine. Est-ce que vous vous souciez de leur devenir, à vos archives, à vous ?
Oui. Oui, il y a des milliers de papiers, etc. Bon, oui.
Parce que vous savez que vous êtes déjà objet de recherche, mais devenir ce sujet de recherche,
oui, vous
le vivez comment ? Ou peut-être que vous pouvez donner des conseils à ceux qui vont plonger dans ces archives. Ouais. Trouver ce que l'on cherche et rien de plus n'est pas assez, c'est ce que vous allez leur dire, c'est ça ?
Oui.
Ils vont devoir fouiller alors.
Il y a aussi cette phrase de Abby Warburg, le livre dont vous avez besoin se trouve à côté du livre que vous cherchez. Et je trouve ça magnifique. Il pensait à cette magnifique bibliothèque qu'il avait construite et qui est maintenant, après, disons, les débuts du régime nazi, elle est à Londres. Incroyable. Le hasard, encore une fois.
Et rétrospectivement, est-ce que vous avez des regrets ?
C'est-à-dire que j'ai fait des erreurs. Et j'ai signalé ces erreurs, sans doute, ça arrive. Regret, oui, dans ce cas, j'aurais aimé ne pas faire ces erreurs. À part cela, oui, je pense que la vie de tout le monde, peut-être certainement la mienne, est ponctuée de erreurs. Oui.
Et l'envie de revenir sur certains de vos sujets ?
Oui, alors je suis revenu plusieurs fois, etc. C'est-à-dire que il y avait quelque chose qui n'était pas achevé, et oui, même si lorsque je pense, bon.
En tout cas, on aura compris que vous êtes joueur, hein, vous aimez jouer, que l'histoire... En fait, vous n'avez pas eu un métier. Vous avez eu du plaisir et du jeu en permanence ?
C'est-à-dire que, oui, alors je pense que la composante ludique du métier d'historien, de la recherche, est très importante. Et il faut la transmettre, parce que je pense que les jeunes gens qui commencent doivent être conscients qu'il y a cet élément ludique. Et la production du hasard et l'utilisation du hasard fait partie de cet élément ludique.
Et l'histoire vous a apporté beaucoup jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
Merci Carlo Ginzburg, historien, conteur, joueur, merci, passeur merci. D'histoire. Et un touche-à-tout, et vous vivez cela comme un jeu permanent. Merci pour cette immersion dans votre riche parcours, une masterclass enregistrée en public dans le cadre des rendez-vous de l'Histoire de Bois. Merci à tous.
C'était la masterclass de Carlo Ginzburg avec Aurélie Luneau, enregistrée au rendez-vous de l'Histoire de Blois. Coordination Henri Leblanc, attaché de production Lily Cornert, prise de son Sébastien Huel et Victoria Asper, chargée de production Franck Malabry, réalisation Manouchak Fachaï.